18h précise, toujours.
Votre station est à l'heure du web.
Toujours le mardi 26 octobre 2010, vous savez comment j'aime la précision. Julie Gagné avec vous pour l'aérospatiale, toujours accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Mon Dieu, je manque de souffle. Respirons. Toujours accompagnée de Christelle Géard aussi, qui nous parlera plus tard en fin d'émission de l'exposition de Luis Armando Garcia, qui résulte d'une résidence in situ à la Chambre Blanche. Et je suis aussi...
Dis pas tout, Julie.
T'inquiète, Christelle, t'inquiète, je te laisse tout le propos. Et je suis aussi accompagnée de Guillaume Adjutard-Provost qui vient nous présenter l'exposition « Changement d'identité, œuvre de fiction oui. ». Donc, exposition en compagnie de Vicky Sabourin et d'Alexandre Janson qui est présentée à vue. Guillaume, bonjour.
Allô, Julie.
Comment vas-tu?
Ça va bien.
Bon, en fait, quand on regarde sur le site Internet de vue, vous vous présentez comme le collectif Relève Québec.
Oui, ça, je pense que, en fait, c'est une idée de, pour rationaliser les choses. Ça vient de Eve, entre autres, Eve Cadieu, qui est à la coordination de l'œil, directrice artistique aussi. Puis le projet, ben, c'est un peu son projet aussi de commissariat là-dedans. Donc, nous, on a été réunis, les trois. Puis, ben, c'est un terme pour nous réunir, mais c'est pas vraiment un choix décisif de, okay. de nous appeler.
C'est pas un nom de collectif.
Non, c'est un collectif ad hoc, donc c'est vraiment pour cette exposition-là, une exposition collective, finalement.
OK, qui résulte aussi bon, d'une résidence que vous avez les trois faits à vue, je crois, grâce oui. à Première Ovation. Est-ce que ça a un lien?
Oui, c'est bon, c'est ça. C'est Première Ovation qui a financé finalement les résidences. Puis c'est drôle parce que la dernière fois que je suis passé à l'aérospatiale, c'était, je crois, en février ou en mars. Puis bon, c'était avec Jean-Pierre.
Pour le Radioton,
pour le... Oui, non, oui, c'est ça, c'est dans le coin du Radioton. Puis j'étais en train de travailler sur ce projet-là parce que j'ai fait ma résidence, justement, au mois de mars.
Et là, bon, dans l'exposition, il y a un thème qui est quand même commun aux trois, c'est le thème de l'identité. Pourquoi traiter ce thème-là parmi tant d'autres, en fait?
Je crois que l'identité, finalement, c'est un peu une tangente dans chacune de nos pratiques. Puis ça a été regroupé comme, on va dire, une thématique pour le bien de l'exposition, mais vraiment, c'est pas nécessairement un thème marquant dans ma propre pratique, si je peux parler pour moi-même. Mais c'est ça, ça a été utilisé, donc c'est ça l'exposition œuvre de fiction,
changement d'identité.
Moi, je pense plus dans la fiction, en fait, que je me suis inséré finalement dans cette espèce de double titre.
OK, parce que dans le fond, si c'est de la photographie, traditionnellement, on associe la photographie à comme un documentaire à croquer sur le vif, mais dans votre cas, dans ton cas, oui. en fait, Guillaume, et dans le cas des autres artistes aussi, il y a toute une construction, en fait, il y a toute une mise en scène qui est mise l'avant.
Ben, je vais reprendre ton thème construction parce que c'est vraiment un premier projet de photographie aussi pour moi. Je ne suis pas photographe du tout.
OK.
Puis je trouve que c'est vraiment une belle initiative aussi du centre-vue, puis ben, dans le fond de Eve, d'embarquer dans un projet de photographie alors que je ne suis pas photographe. Elle a juste dit ben, t'as-tu le goût de faire ta pratique dans un médium qui n'est pas le tien? Puis ça, je trouve, bon, je dis let's go. Donc aussi, c'est vers là que je suis allé faire la résidence. Puis je crois qu'on le sent, que c'est construit un peu. Mes photographies sont construites comme je travaille surtout en dessin. Donc. On sent, c'est beaucoup comme un plan l'arrière, finalement. C'est comme ouais. un plan où est-ce qu'il y a des objets qui sont disposés. Puis je profitais même du modèle, la personne qui posait pour la photographie, d'utiliser son visage, puis son corps, comme aussi comme un endroit pour suspendre des éléments, les espèces de sculptures qui sont comme les sourcils.
Oui, c'est ça, hein, parce qu'il y a comme des faux cheveux, des faux sourcils, bon, tressés. Pourquoi, ouais. hein, justement, travailler avec cette matière-là plus précisément?
Ben la matière, puis aussi l'action de tresser, puis de teindre les vêtements, puis de coudre, parce que toutes les espèces de tuniques qui sont, bon, c'est des tuniques pastels, il y a 8 portraits, puis, bon, je suis passé par toute l'idée de faire des objets éphémères artisanaux, pardon, puis ça a commencé avec, en fait, le projet a commencé un peu avec mon intérêt pour les communautés secluded, ou comme les mormons, les shakers.
Ouais, les sectes, vraiment fermées sur elles-mêmes.
Ouais, c'est ça, un peu comme ça, on a... entre autres, il y a un événement aux États-Unis qui m'a beaucoup marqué, parce qu'on a marqué mon imaginaire, du moins pour les couleurs, pour l'esthétique de ce projet-là. Puis c'était il y avait une descente policière dans une communauté mormone au Texas qui s'appelait le Yearning for Zion Ranch. Puis c'est en 2008-2009 environ. Puis c'est ça, donc toutes les femmes portaient exactement le même modèle de robe, mais dans des couleurs, justement, les tons pastels, là, donc bleu, mauve, rose, vert pâle.
OK, parce que dans ton travail, il y a souvent bon, des référents à l'histoire. Donc, c'est le cas, finalement, dans cette à l'histoire ou à l'actualité. Ouais. C'est le cas dans cette série-là aussi.
Puis j'avais lisé un petit peu pour regarder, finalement, ce qui m'intéressait sans avoir nécessairement le propos ou d'un... Ouais.
Donc, de le transformer, parce qu'effectivement, tu dis que tu as pensé à cette secte-là. On sent qu'il y a quelque chose quand même de rituel. On sent qu'il y a quelque chose de fétiche aussi à travers les objets qui sont utilisés dans la photographie. Donc, le même objet qui revient constamment.
Oui.
Bon, OK, c'est plus une affirmation
non,
qu'une
question.
C'est une
très bonne affirmation.
Bon, les objets, en fait, qui sont accrochés au mur, des faux cheveux, comme des branches, à un moment, je pense qu'il y a comme un chandail, un collier, ça crée comme un effet de collage aussi, dans une certaine mesure, parce que le mur est blanc. Est-ce que c'est un effet qui est volontaire?
Oui, puis même une chose que finalement, une résultante du projet que je trouve très heureux, c'est le fait qu'avec les marges, parce qu'il y a des marges blanches en photographie que j'ai commencé à utiliser, à l'instar de quand je fais du dessin, j'aime beaucoup utiliser finalement un objet ou quelque chose qui est flottant dans un espace très vide où est-ce que le vide occupe beaucoup de place. Alors que là, la marge coupe certains objets en périphérie, je sais que ça a l'air très simple, moi, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment fasciné dans le résultat de la photographie parce que je contrôlais moins l'espace de mur, je me laissais la liberté que les objets sortent de ce que je pouvais prendre comme panorama, finalement, comme vision, comme cadre, oui, comme cadrage de l'image.
Puis, est-ce qu'il y a une volonté aussi que le spectateur, parce que, bon, les modèles, il y a comme des fois, c'est comme plus des sourcils, à un moment, c'est comme une espèce de collier de faux cheveux, je pense qu'il y a aussi comme une moustache, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a une volonté qu'on porte un regard vraiment ambigu sur l'identité des modèles?
Parlant d'identité de modèle, c'est drôle parce que cette question-là m'est venue. Beaucoup de monde m'ont demandé pourquoi, justement, j'avais choisi de faire des portraits de femmes, entre autres, parce que c'est toutes des femmes.
Oui.
Puis, c'est vraiment pas une question que je me suis posée, enfin, quand j'ai fait le projet. Je me suis pas dit soit prendre des femmes ou des hommes. Je pense que j'ai juste privilégié le fait qu'il y avait des cheveux qui étaient longs. Puis finalement, je suis juste allé avec ça. Donc, c'est pas vraiment une idée de portraiturer.
Oui, portraiturer, je pense que ça se dit. Disons-le, à tout le moins, on se comprend.
Des femmes, puis finalement, les poils qui sont associés ou qui sont collés dans le visage, c'est un peu comme... C'est mon intérêt pour les choses qui sont, on va dire, sécrétées par le corps, la sueur, puis les poils. Puis là, c'est réutilisé comme faire des... Ils sont utilisés pour faire des sortes de parures. Puis je trouve ça intéressant. Je sais pas, c'est peut-être...
Je rigole parce qu'en fait, je me disais, moi, j'ai plein de copains qui sont métalleux.
Mais ça aurait marché. Mais écoute, j'ai fait peur à main du monde. J'ai proposé un peu le projet aussi à des garçons qui avaient les cheveux plus longs. Puis finalement, ça n'a jamais vraiment donné de résultat. Fait que ça a fini par être juste un projet avec des femmes.
Des femmes, finalement. Ouais. Moi, je me pose une question, en fait, sur le titre « La marchandise absente ». Pourquoi ce titre-là, précisément?
En fait, c'est le titre du projet, oui, en tout cas, de ma série de photos, on va dire. C'est que ça commence avec donc la marchandise. Je considérais, bon, je suis retourné dans le sud cet été aussi. Puis il y a des communautés mormones qui, on va dire Amish, qui, sur le bord des routes, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ils ont des stands, des étalages avec des paniers tressés. Puis mon intérêt, c'est de me dire qu'il y avait une sorte de marchandise qui restait comme un lien entre la communauté puis l'extérieur, finalement. Une sorte de marchandisation, finalement. Puis, dans ce cas-là, je me disais, bon, c'est une espèce de marchandisation qui est hypothétique, puis c'est aussi près de la performance, de la discipline performative. Donc, je me suis dit, bon, c'est ça, c'est la marchandise absente.
Parce que moi, je voyais la marchandise aussi peut-être un peu comme les modèles absentes, parce que, bon, il y en a certaines qui regardent la caméra, d'autres qui la regardent pas, qui semblent presque fuir, puis on sent qu'il y a comme aucune confrontation, donc je voyais peut-être l'absence dans le regard des personnages, peut-être.
Ben, parlant de regard, je peux juste te relancer là-dessus, c'est drôle parce que la façon dont ils sont disposés dans la galerie à vue, parce qu'on est en exposition en ce moment, certains se font face, puis il y a des miroirs qui répondent à la photographie d'en face. Donc, il y a vraiment actuellement un miroir dans la photo. Puis le modèle qui est qui réfléchit dans le miroir, c'est la photographie qui est en face. Puis les regards se renvoient d'une à l'autre. C'est un peu comme un jeu de... Tu vois, c'est comme un jeu
de citations aussi de chacune des œuvres. Sais-tu, j'avais pas remarqué ça. Ça pique vraiment ma curiosité.
Ouais, c'est à voir.
Souvent, on regarde comme les œuvres individuellement. On se recule pour voir l'ensemble, mais sans nécessairement voir des références les unes aux autres. Peut-être avant de terminer, je ne sais pas si ça te tenterait de nous parler un peu du travail que nous propose Alexandre Janson puis Vicky Sabourin aussi.
Oui, absolument. C'est drôle parce que Vicky puis Alexandre, bon, chacun tous étudié à l'Université Laval. Bon, Alexandre, en ce moment, est à Paris, travaille beaucoup on va dire, avec la mode, avec le, dans le coiffure aussi, puis travaille à Paris.
Ça se sent dans ses photos
ça
aussi,
hein? Ça se sent
hein?
beaucoup, c'est super baroque. Bon, pour ceux qui ont vu l'exposition, qui vont aller le voir, c'est ça. Donc, c'est vraiment des atmosphères qui sont surchargées. Puis, c'est aussi des... Bon, je crois qu'il est beaucoup inspiré par, justement, des lieux, des tunnels ou un peu délabrés, des endroits qu'il trouve en France.
Des endroits sans issue aussi, là, quand même.
Oui, c'est vrai. C'est un peu comme des pièces qui sont confinées. Il y a quelque chose, il y a comme une sorte de confinement dans son travail, puis c'est assez... les clairs-obscurs sont assez forts aussi, contrastés. Puis pour ce qui est de Vicky, Vicky Sabourin qui travaille à Montréal, puis qui en ce moment fait ses études à l'Université Concordia en photographie. Elle est vraiment photographiée, en fait. C'est un projet dans lequel elle s'est mise en scène dans les performances, donc dès le vernissage, dans l'espèce de... une sorte de niche, en fait, dans laquelle on voit une forêt, une grande photo d'une forêt
avec un
loup
empaillé.
Un loup empaillé, effectivement. Ou peut-être un coyote, je ne sais trop. Donc, à la première soirée, c'est ça, elle a fait une performance où est-ce qu'elle reste immobile devant le loup avec un peu la même position que la figurine, parce qu'il y a aussi la photographie d'une figurine à côté.
Du petit chaperon rouge, en fait,
ouais,
avec le
loup.
Oui, un
peu loin, c'est ça, c'est même, très même. Puis, donc, c'est pour faire une sorte d'écho à ça, puis... je crois qu'elle est revenue aussi en fin de semaine. J'ai eu des nouvelles d'elle. Ça a été à vue samedi. Je me demande si elle ne va pas aussi revenir tout au long de l'exposition.
Donc,
semblerait les samedis, peut-être.
Ça serait à surveiller parce qu'effectivement, si l'artiste est là, dans l'espèce de petite niche, ben, ça ajoute peut-être un peu de sens parce que sinon, le loup est un peu perdu
ça,
dans son...
Définitivement.
Ouais. Ben, Guillaume Adjutor-Provost, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Si vous voulez, Christelle?
Oui, moi, je voulais savoir si tu allais continuer dans la photographie.
Oui, décidément. Je crois que ben, c'est justement avant la photographie, j'étais bon, dessin, mais aussi beaucoup en performance. Puis je considérais beaucoup la photo comme de l'archive, un archivage. Puis avec le projet de avec Vue, justement, ça m'a vraiment fait réaliser que j'aime ça, la photo. Puis là, j'ai travaillé avec du 120 mm, donc c'est encore une photographie qui est argentique. Puis j'ai le goût de continuer là-dedans. Puis Alexis Degagné aussi qui travaille. J'ai vu, c'est une très belle rencontre, autant sur le plan personnel, humain, que professionnel. Puis je crois qu'on aussi... travailler ensemble à l'avenir parce qu'il est super passionné puis vraiment intéressant aussi sur la photo, là, l'argentique, tout ça.
Ben, tout ça est à suivre, en fait. Si vous êtes intéressé à voir le travail de Guillaume Adjutor-Provost, vous allez sur Internet. Il y a un site qui est très, très complet, qui présente la suite de manière assez exhaustive son travail. Sinon, merci Guillaume encore.
Merci vous
pouvez aller voir l'exposition « Changement d'identité, œuvre de fiction » qui est présentée à Vue jusqu'au 14 novembre et qui présente les projets de trois artistes, dont Guillaume Adjutor-Provost, Vicky Sabourin et Alexandre Janson. On s'en va en pause audio, on écoute Maria Callas sur les ondes de CKRL. Alors, on vient d'entendre doublement Maria Callas, puisque c'est elle que vous avez entendu chanter, bien entendu. Et c'est aussi une pièce de Christian Markley qui est tirée de l'album More Encores, qui, lui, en fait, travaille à partir des vinyles d'artistes. Il les brise, les recolle, en fait, de l'échantillonnage et nomme la plupart de ses pièces en fonction des artistes sur lesquels il a travaillé. Et dans ce cas-ci, c'était Maria Callas. Il reste tout juste 15 minutes à l'aérospatiale. Et ces 15 minutes-là, on les attend avec impatience parce que Christelle Géard va nous parler de la résidence de Luis Armando Garcia à la Chambre Blanche, l'exposition qui s'appelle Viento del Norte.
Oui, alors, je recommence. Donc, Luis Armando Garcia, ça c'est pour bien mettre...
Ouais, oui, c'est bon ça.
Puis aussi parce que quand je suis allée voir l'exposition à la Chambre Blanche, moi, je m'attendais à voir une exposition, tu vois, t'arrives, puis il y a tout
terminé.
Terminé. Et là, pas du tout. Et là, j'arrive et donc le chantier. Des escabeaux, des vis, enfin, j'étais un peu, on va dire, désarçonnée en fait quand je suis arrivée. Et j'avais regardé un petit peu le communiqué de presse donc, qui expliquait que l'artiste voulait... En fait, c'est un artiste qui vient de la ville de Zacatecas, au Mexique. Et le projet, en fait, de Viento del Norte, pardon pour l'accent, était de mettre en perspective les différences, on va dire, climatiques, mettant dû au Mexique versus au Québec. Notamment parce que dans la zone où il vit, il y a beaucoup de sécheresse. Donc la problématique, c'est l'eau, comment on récupère l'eau, comment les gens font pour vivre, etc.
Tandis qu'ici, ben là, on la gaspille.
La surabondance. Il y avait tout un... de ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'il y avait initialement, puisque l'exposition... Enfin, la résidence, en fait, de cet artiste a commencé le 20 septembre. Initialement, il y avait pour représenter justement la surconsommation d'eau au Québec, des bacs d'eau avec de la glace, et puis quand la glace fondait, il y avait des petits cailloux qui tombaient sur le sol et qui étaient dans des espèces d'hamacs, mais faits avec des ficelles un peu qui ressemblent à nos pantoufles, enfin à vos,
du
pardon.
Fantex,
à vos pantoufles en fantex.
T'affiches ton origine française.
Ouais, c'est ça. Non, moi ça j'en veux pas.
C'est tellement sexy.
Et puis, je parle pas au présent parce qu'en fait, cette exposition-là, je ne l'ai pas vue. Parce que quand je suis arrivée, l'artiste avait décidé de changer. C'est-à-dire de Viento del Norte n'était plus sur les conditions, on va dire, climatiques, la différence, mais plutôt vers les différences culturelles.
Oh.
Oui, et
donc
ça,
c'est vraiment un propos évolutif.
Vraiment, et puis je m'attendais pas du tout à ça quand je suis allée voir l'exposition. Et en discutant avec la personne qui m'a accueillie en fait à la Chambre Blanche, je comprends que l'artiste est là depuis 4 mois. Et ce que je trouve intéressant, c'est que il a commencé sur ce travail, il a commencé avec ce projet et en baignant en fait dans la culture, en s'immergeant dans la culture québécoise, il a décidé de faire une nouvelle expo, un nouveau projet, mettons sur la différence sociale, la violence. Mettons qu'il travaille maintenant sur la violence au Mexique versus la société beaucoup plus paisible en fait que nous avons au Québec. Puis ça a vraiment fait écho parce que moi en tant que Française, en plus avec les événements qui se passent en France, etc., c'est vraiment comme ça que je perçois la société québécoise. Donc en fait, je n'ai pas vu l'exposition finale qui va se terminer le 31 octobre, mais ça m'a donné vraiment envie d'aller voir, d'aller rencontrer cet artiste qui n'était pas là aussi ce jour-là. Vraiment, c'était la totale. Mais ce que j'ai vu en fait, c'est comment aussi avec les mêmes objets de la première exposition Viento del Norte, en fait, sur le climat, il réussit à faire passer une idée qui est complètement différente, qui sont aussi sur des rapports de sociétés différentes. Mais au départ, il parle du climat. Puis après, il parle des rapports sociaux. Mais il va utiliser les mêmes objets, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir...
Un double discours, en
oui.
fait, pour les mêmes objets.
Et puis, une nouvelle utilisation des objets. À un moment donné, il y a des... moi, je n'avais jamais vu ça. Ce sont des filtres à eau. C'est des filtres en terre cuite, je pense, qui sont utilisés dans le désert au Mexique pour récupérer l'eau. Donc l'eau passe à l'intérieur de ces filtres qui ressemblent un peu à des dés à coudre. Et puis, ça tombe dans des bassines. Et là, l'eau est filtrée et donc prête à la consommation. Et là,
les filtres sont toujours en place, mais ils ont des trous, en fait, donc ça, qui ressemblent un peu comme à des impacts de balles. En tout cas, c'est assez surprenant. Pourtant, c'est le même objet. Puis c'est vraiment le détournement qu'il en fait. Et puis là, ça, je sais pas. En tout cas, je trouve ça vraiment questionnant. On part d'un même objet. Et là, ça nous emmène complètement ailleurs. Et ça m'a vraiment donné envie de regarder la suite de l'exposition et qu'est-ce qui va se passer avec tous ces objets et puis la transformation.
Donc, tu as bien l'intention d'y retourner.
Mais c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que je me suis auto-persuadée de retourner. de retourner voir l'exposition et puis de rencontrer l'artiste aussi, parce que ça m'a vraiment interrogée de voir une personne qui reste 4 mois dans un pays étranger, qui, vu son curriculum vitae, en fait, qui est amené à côtoyer plein de personnes d'origines, de cultures différentes, puisqu'il a déjà exposé en Amérique centrale, en Europe, d'avoir cette conscience-là, en fait, de l'environnement, non seulement climatique, mais aussi social, puis de se poser des questions sur qu'est-ce qui nous entoure, sur notre quotidien.
Qui nous amène à nous interroger aussi, en fonction de son point de vue à lui.
Oui, exactement. Puis, ce que j'aimais aussi, c'est que quand je suis arrivée, c'est vraiment tout un univers. Le monsieur est ingénieur, donc je rappelle son nom quand même, Luis Armando Garcia, est ingénieur à la base. Et là, tout dans la pièce, c'était comme un géotrouve-tout, un patonteux là, québécois. C'était, il y avait des vis, des escabeaux, des petites lumières, mais que des choses, on va dire, des matériaux un peu plus de construction. Il y avait des toiles aussi, mais ça ressemble, on dirait que ça ressemble un peu à du béton, ça peut ressembler aussi à de la terre. Il y a tout un jeu avec la matière, avec des couleurs, beaucoup d'ocre, beaucoup de couleurs de terre. Il travaille aussi avec la rouille, avec l'eau, vraiment avec des matières naturelles. En tout cas, c'est
ça vaut la peine. Mal. Oui, faut y aller. En fait, ça se termine le 31 octobre. Il y a fort à parier que déjà, ça a beaucoup changé. C'est peut-être en une version presque finale aussi. Souvent, une résidence s'est amenée justement à évoluer. Christelle, merci beaucoup.
J'espère que j'ai donné envie au monde d'aller la voir.
Moi, tu vas vraiment piquer ma curiosité de manière très, très forte. Donc, on parlait de la résidence de Luis Armando Garcia à la Chambre Blanche qui s'appelle Viento del Norte. Pour notre dernière pause audio à l'aérospatiale, on va écouter Jane Birkin et Serge Gainsbourg sur les ondes de CKRL.
Il faut des pick-up.
Je crus ce qu'essaie de m'embrasser.
Ou bien encore.
Souviens-toi la première fois à l'hôtel.
Yeah.
Vous aurez probablement reconnu Charlotte, pas Charlotte, mais Jane Birkin dans « Je t'aime, moi non plus » de Serge Gainsbourg. C'est tiré de la pièce qui s'appelle à juste titre « Jane Birkin et Serge Gainsbourg » de l'album « More Encores » de Christian Markley, un artiste américain. Si vous êtes intéressé par l'album, c'est sur l'étiquette RER. Vous pouvez probablement trouver les informations de manière plus générale sur Internet. C'était toujours la suggestion d'Éric Dorion, notre collaborateur fidèle à chaque semaine. Avant de passer au calendrier, je vous inviterai, si vous avez des commentaires, des questions, des réflexions, envie de parler de vos expériences artistiques, pourquoi pas, à nous écrire sur le site Internet de l'émission aerospatial.ckrl@gmail.com. Ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires, de répondre à vos questions et de discuter avec vous.
Est-ce que c'est une nouvelle adresse, Julie?
C'est une nouvelle adresse. Ouh! Elle a tout juste 2-3 semaines. C'est un petit peu excitant. À chaque jour, je vais regarder les nouveaux courriels. Et là, ouh là là, je suis toute contente. Mais je suis pas aussi contente quand même que quand il y a plusieurs événements en art visuel auxquels j'ai envie d'assister. Notamment, peut-être pour répéter un peu, le Refree, la soirée de performance audio qui nous est proposée par Tartare, donc une soirée en hommage, en fait, à l'album Free Jazz Ornette Coleman. Si vous êtes intéressé, c'est jeudi, le 28 octobre à 20h à la salle Multi de Méduse. C'est 10$. Des performances de Martin Tétrault, d'Éric Dorion, de Philippe Aubert-Gauthier et de Vente de Feu, un trio de Québec. Sinon, on en a parlé en début d'émission. Sortez vos morts au Studio P le 30 octobre à 20h au prix de 7$. Avec Adva, Stéphane Bouliane, Catherine Cédillo, Justine Ricard, Anna Feldas, le Front Mortel de Poésie, Danny Gaudreau, Christine Saint-Maur, Karine Turcotte, Dominique Sirois et Alain Lefebvre et bien entendu le mai 42. Sinon, demain soir à 19h30 au Musée national des Beaux-Arts, il y a une conférence architecture, paysage et peinture par Ricardo L. Castro qui est professeur à l'école d'architecture de l'Université McGill. C'est gratuit. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Christelle Géard, merci beaucoup.
Merci, Julie.
J'en profite pour remercier aussi Jacques Gignac à la mise en onde. On vous souhaite une excellente semaine et aussi une excellente soirée sur les ondes de CKRL. Soirée mardi, nostalgie et poésie qui débute avec les Phares à brume avec François Fontaine. Donc, bonne soirée à tous.
Bye-bye.